Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver sur Europe 1 comme chaque vendredi, samedi et dimanche. Et ça tombe bien parce que le match du dimanche soir, c'est le classique, c'est Marseille-Paris-Saint-Germain à suivre en intégralité, 20h45 pour le coup d'envoi, avec nos envoyés spéciaux, Jean-François Pérez, Stéphane Burgat, Marc Libra qui sont au Vélodrome. Ils ont la chance d'être dans ce stade en fusion où la température monte considérablement et on y sera dans quelques instants pour la prendre, cette température. Mais on aura d'autres invités, d'autres experts qui vont nous accompagner bien sûr dans les grands débats, mais également dans cette... Parti pour l'analyse en direct. Tiens, notamment, Jimmy Algerino est là, comme par hasard. Bonsoir, Jimmy Algerino.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Je le rappelle, ancien défenseur du Paris Saint-Germain. C'était important d'équilibrer avec la présence de Marc Libra au Vélodrome. C'était normal que vous soyez là, Jimmy, n'est-ce pas?
Oui, attaquant, défenseur. Qui va attaquer, qui va défendre
dans
ce soir?
Dans le couloir, je peux vous dire qu'il va se passer énormément de choses ce soir. Grégory Schneider de Libération. Bonsoir, Grégory.
Bonsoir, messieurs, dames. Je crois me souvenir que Jimmy Algerino était encore meilleur contre-attaquant que défenseur.
Vous avez une bonne mémoire. Absolument, absolument.
Il le sait mieux que moi.
Il a aussi une très bonne mémoire parce qu'il adore le foot. C'est Laurent Barra qui est avec nous. Bonsoir Laurent.
Et bonsoir les amis.
On est ravis de vous retrouver. Votre spectacle en toute transparence. Bientôt à Marseille d'ailleurs à partir du 18 mars.
Oui.
Et puis le 7 janvier à Cannes. Voilà. Et grand supporter de l'OM.
Et supporter de l'OM et du beau football. Et du beau football.
Bon, très bien. Ça c'est pour contrebalancer avec la présence d'Harry Habitant dans quelques instants aussi, qui lui est un grand supporter du Paris Saint-Germain. Et avec tout cela, avec tout ce monde, eh bien évidemment, on évoquera Pochettino et Sampaoli, puisque c'est un peu l'eau et le feu quand même, les deux entraîneurs argentins, deux entraîneurs qui s'opposent véritablement. On va en parler et puis les compositions d'équipe dans quelques secondes. Alors comment on joue à la lumière des informations que nos envoyés spéciaux vont nous donner? Eh bien nous allons tout décrypter et vous donner toutes les clés. Le Stade Vélodrome, on y va sans plus attendre. Jean-François Pérez, Stéphane Burgat, Marc Libra, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ah voilà, j'ai entendu deux voix. Non, j'ai entendu les trois ou pas?
J'ai entendu Marco.
Ouais, Marco on l'a reconnu. Ouais. Jean-François Pérez aussi. Stéphane Burgat, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah, très bien. Voilà. Ne vous laissez pas impressionner par Marc Libra, Stéphane. Hein. C'est pas parce qu'il
est
au stade ce soir.
Hein. Il est très impressionnant.
Ouais, c'est un beau bébé. Et les toutes dernières informations, s'il vous plaît, l'ambiance, parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait pas mal de monde ce soir, et puis les compos.
L'ambiance, elle est dingue et ça fait des heures qu'elle est dingue. Dès 14h, alors que les joueurs du PSG entrent à l'instant même sur la pelouse. Écoutez-moi ça. Dans le stade est plein, hein, quasiment plein, à trois quarts d'heure du coup d'envoi. Et dès 14h, il y a eu des bombes agricoles, de la pyrotechnie sur le boulevard Michelet. C'est vraiment un jour pas comme les autres pour l'Olympique de Marseille. On va tout de suite donner le compo d'ailleurs. Et on va écouter l'ovation puisque les joueurs de l'OM entrent à l'instant même sur la pelouse. Allez, la compo, Stéphane, de l'Olympique de Marseille.
Allez, sans surprise, Paulo Lopez dans les buts, le trio défensif, Juan Pérez, William Saliba et Douye Tsaletatsar qui est reconduit pour animer ce trident. La sentinelle, Boubacar Camara, milieu de terrain avec Valentin Rongier, Gendouzi, Dimitri Payet en meneur de jeu pour alimenter Arek en attaque et sur les deux couloirs. Et bien, ce sera d'un côté à droite Sengiz Under et l'autre piston ce sera Paul Virola qui a quand même la confiance même s'il a été assez moyen sur ses dernières sorties.
Absolument, côté Paris Saint-Germain on a sorti tout le monde, toutes les stars sont là ce soir dans les buts Keylor Navas qui a été préféré à Donnarumma, la défense de gauche à droite Nuno Mendes, Prestel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, le milieu de terrain avec Marco Verratti évidemment, Danilo Pereira, c'est la petite surprise de la soirée qui est titulaire ce soir, Lionel Messi évidemment sans doute dans un rôle de meneur de jeu, à gauche Neymar, à droite André Di Maria et devant Kylian Mbappé, l'arbitre de ce match très important sera Benoît Bastien, c'est son 7e, le tout sous une température idéale pour fin octobre, il a fait un temps magnifique aujourd'hui sur Marseille et sur sa région et on espère maintenant que le spectacle et l'ambiance seront à la hauteur.
J'en suis persuadé avec un commentaire de folie pour ce match. On a mis les petits plats dans les grands, évidemment. Vous restez avec nous pour les grands débats dans quelques instants. Juste le temps pour moi aussi de vous dire que dans les autres grands matchs à l'étranger et notamment dans le fameux Classico, le vrai Classico, c'est le Real qui a gagné face à Barcelone au Camp Nou sur le score de 2-1. Et dans le derby d'Angleterre, carton de Liverpool face à Manchester United à Old Trafford sur le score de 5-0. Et dans quelques instants aussi, on a presque oublié avec cette folie du classique en France, qu'il y avait juste un Français qui était pour la première fois champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo. Et on va en parler dans quelques instants avec notre expert Philippe Monneret.
Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau sur Europe 1.
À jamais le premier, Fabio Quartararo, premier français champion du monde en MotoGP dans la catégorie Rennes. Pour en parler avec nous, notre champion moto, Philippe Bonneret. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Lionel. Bonsoir
merci, merci d'être avec nous. J'imagine que vous devez être ravi, comme tous les passionnés de moto, comme tous les experts de moto. Fabio Quartararo, même si on s'y attendait, ce pouvait être aujourd'hui, ça aurait pu être dans 15 jours, champion du monde. Est-ce que vous réalisez vraiment ?
C'est historique, hein, vous venez de le souligner, mais on l'attendait tellement, hein, ce champion du monde en catégorie Rennes, parce que des talents dans la moto, il y en a eu beaucoup, mais il fallait que tout se goupille bien, avoir la bonne écurie, le bon pilote au bon moment, voilà. Et je pense que Fabio, lui, a vraiment un énorme talent, c'est surtout ça qui a fait la différence. D'ailleurs, regardez, chez Yamaha officiel, il a fait craquer son coéquipier en cours de saison, hein. Donc, c'est vous dire le talent qu'il a, comme il a éclaboussé de son talent toute cette saison MotoGP.
Il n'a que 22 ans, donc ça veut dire qu'il peut avoir encore une énorme carrière, et pourquoi pas une carrière à la Valentino Rossi. C'était à Misano, hein, cette course aujourd'hui, qui lui a permis de s'imposer. Son rival au classement général, Banaya, est tombé. Il en a profité, il termine quatrième. Mais au-delà de ça, c'est cet exploit qui va, comme vous le disiez, Philippe Monneret, rester dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il rentre dans un club très fermé, Fabio Quartararo, que ce soit dans le monde de la moto, mais également dans le sport en général.
Oui, et en plus, bah, je pense que ça va aller beaucoup plus loin, parce qu'il est très fort. Vous avez vu, il est jeune, 22 ans, il calcule, il sait gérer, il est très performant quand il le faut, il ne fait pas d'erreur, juste son talent d'Achille, mais je pense que ça va se rectifier, en tout cas je l'espère, c'est sous la pluie, où il est un petit peu moins bien. Mais en tout cas, je pense qu'il va pouvoir encore dominer. Ça va être quand même compliqué de le battre. Même un Marquez, quand il va revenir en forme, ça ne va pas être si facile pour lui de le battre. Banaya, qui est pas mal, il y en a d'autres. Mais je pense que c'est quand même le pilote qui est très, très fort pour les années à venir.
Pour la moto française, c'est une excellente chose, Philippe. Enfin, véritablement, on va pouvoir dire qu'il y a des leaders. On n'oublie pas Zarco, bien sûr, mais Quartararo est en train de tirer la moto et la France de la moto vers le haut.
Oui, parce qu'à chaque fois, on disait, on ne parle pas beaucoup de moto parce qu'on n'a pas de grands champions moto. Mais là, on va voir, parce que là, il va falloir finir par en parler. C'est ça le côté un peu particulier de la moto. Ça a beaucoup de succès sur le plan populaire, mais les grands médias ne parlaient pas beaucoup de la moto. Et là, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est énorme pour la moto française, ce que vient de réaliser Fabio Quartararo. Et ce que je vous dis, je pense qu'il va faire une grande carrière dans la moto. Il est très jeune, 22 ans seulement.
Et aujourd'hui, Philippe Monneret, il n'y a plus pas que les Italiens, pas que les Espagnols, on peut dire, il y a les Français.
Voilà, vous savez, c'est un peu cyclique. La patrie de la moto, au début, c'était les Anglais et les Italiens. Puis après, il y a eu les Américains, les Australiens, les Espagnols, de nouveau, les Italiens avec Valentino Rossi qui a dominé, les Espagnols encore avec Marquez, et là, je pense qu'on peut rentrer dans l'ère française avec Zarco, bien sûr, qui est là quand même, et Fabio Quartararo, le nouveau champion du monde.
Et avec Philippe Monneret, bien sûr, qui nous accompagne sur Europe 1. Merci infiniment, Philippe.
Merci à vous.
À très vite, bonne soirée.
Allez, à bientôt.
Tous les sports et sur Europe 1.
Invité prestige sur l'antenne d'Europe 1, un grand passionné de foot, un magnifique comédien qui est sur scène de nouveau avec son nouveau spectacle pour de vrai. C'est Harry Habitant qui est avec nous au soir de Marseille PSG. Bonsoir Harry Habitant.
Bonsoir Lionel, bonsoir tout le monde.
On est ravis de vous accueillir car vous êtes un grand passionné de football, un supporter du Paris Saint-Germain aussi, il faut le dire. Dans quel état d'esprit êtes-vous et dans quelles conditions allez-vous suivre le match de ce soir ?
Écoutez, moi je suis prêt depuis vendredi matin, en jogging devant le canapé, sur le canapé devant la télé. J'attends ce genre de match. Vous savez quoi ? En fait, on aime le football pour ce genre de match. Vous me comprenez Lionel ? Et pas parce que je suis supporter et fan même du Paris Saint-Germain, c'est juste parce que on sait, quoi qu'il arrive, qu'il va avoir un beau match. Voilà. Et on aime le football pour ça. Moi, je me souviens quand j'allais avec mon père à l'âge de 7 ans, mon père chauffeur taxi qui m'emmenait au Parc des Princes, on allait 2 heures avant, mais mon père, il supportait pas, il fallait qu'on parte 5 minutes avant parce qu'à l'époque, c'était très compliqué. Il me disait non, après, on aura du mal à partir. Alors à chaque fois, je ratais les 5 dernières minutes de Marseille-Paris-Saint-Germain.
Et notamment là, les buts à la dernière minute alors.
Et les buts à la dernière minute. Et à chaque fois, il mettait Europe 1 Il dit, mais c'est pas grave, on écoute à la radio. Donc on écoutait à la radio, Mustapha Dalev, Pilorger, Battenet, Baratelli de l'époque. C'était, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Vous savez, ce genre de match, c'est vraiment incroyable.
Vous êtes un supporter de la première heure, en quelque sorte, Harry Habitant, avec votre père. Aujourd'hui, vous continuez à aller au parc. Alors vous êtes bien placé parce qu'on vous invite avec les personnalités. Non, mais c'est agréable. C'est bien de pouvoir bénéficier aussi de ce statut. C'est génial. C'est génial.
C'est exactement ça. Ouais. Vous avez raison parce que moi, quand j'allais avec mon père, donc on allait, bon, c'est vrai qu'on était un peu plus haut. Et aujourd'hui, quel plaisir d'emmener mon père avec moi quand je suis invité dans les loges. Quel plaisir d'amener avec moi mon père et de lui rappeler que quand on était ensemble là-bas, il me demandait d'aller signer un autographe à Henri Salvador qui était à côté de nous en tribune C. Pour les fervents supporters du Parc des Princes, ils connaissent, c'était vraiment là où on était le mieux placé. Et moi, j'escaladais, j'étais petit, les grilles pour demander un autographe à Henri Salvador. Donc, c'est vraiment incroyable d'amener mon père là-bas régulièrement et de passer ces moments avec lui.
Quels sont les joueurs, Harry Habitant, d'aujourd'hui, hein, les joueurs du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, et peut-être de Marseille, pourquoi pas, ça fera plaisir aux supporters marseillais qui nous écoutent, que vous aimez bien,
évidemment,
que vous appréciez ou qui vous impressionnent particulièrement?
Écoutez, moi, je suis très amateur du beau jeu et du spectacle. Voilà. Là, le dernier match de Marseille avec Payet, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment... C'est même avec Marseille, quoi. Tous les matchs de Marseille, ce sont des beaux matchs. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose en plus. Voilà. Les matchs de Marseille et les matchs de Paris, il y a quelque chose en plus. Alors, ce soir, ça va être du spectacle. Et c'est ce que j'aime, moi, aujourd'hui. Quand je regarde encore une fois Messi jouer... Je me dis, mais c'est pas possible, est-ce qu'il joue vraiment au Paris Saint-Germain? Je n'arrive pas à y croire, quoi.
Ouais, vous n'imaginiez pas qu'un jour, Neymar, Messi, Mbappé également, puissent se rejoindre ce Paris Saint-Germain? Parce que, en tant que supporter historique, Harry Habitant, il y a eu des saisons, il faut l'avouer quand même, qui n'ont pas été terribles.
Les supporters ont souffert.
Hein.
Mais on ne va pas citer de nom, parce que c'est pas bien, Lionel. Mais évidemment, on était là. On était là depuis le début. On était là au moment où on était 17e, où on avait peur de descendre en seconde division. Mais moi, je viens de l'époque aussi où j'ai toujours vibré. J'ai toujours eu ce moment incroyable à chaque fois, à la fin des matchs, de quand on gagnait. Et le lendemain, j'achetais l'équipe, j'achetais tous les journaux. Et quand on perdait, je passais devant les kiosques. Je ne voulais même pas acheter un journal, quoi. Tu vois, je ne voulais même pas entendre quoi que ce soit. Donc oui, j'ai connu cette époque dans les années 80 avec Tokoto, avec Boubacar. Et je joue avec eux aujourd'hui, vous savez, aux variétés.
Aux variétés, oui.
Ouais. Avec Jacques Vautrouve. Donc, on se parle beaucoup de ces périodes-là. À l'époque mais on était là aussi à l'époque de Talal El Karkoui, de Fabrice Pancrate, évidemment. Et puis après, c'est monté crescendo avec Zlatan. Et aujourd'hui, cette équipe incroyable qui nous fait vibrer, quoi.
Et ça nous fait de très beaux matchs contre Marseille avec le classique qui reste toujours une rencontre très à part, même si c'est vrai que ce PSG semble supérieur. Alors vous êtes de retour sur scène, Harry Habitant, avec votre spectacle pour de vrai dans toute la France et notamment à Paris,
oui,
du 9 au 12 mars à la Cigale, le 9 et 12 mars 2022, bien sûr. Je rappelle également, je me permets de le faire, que vous serez à Marseille le 21 janvier 2023. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit sur le Paris Saint-Germain et Marseille depuis le début de cette interview désormais Harry Habitant? Quand on a cette information.
Vous savez, j'adore jouer à Marseille, mon spectacle. Au contraire, j'aime jouer à Marseille et en plus, ils le savent. Mais moi, c'est bon enfant, je ne suis pas du tout dans cette rivalité de dire ouais, super. Non, pas du tout. Je suis amateur de beaux jeux. J'aime le football, je suis un fan de football à la base. Alors évidemment, mon père m'a amené au Parc des Princes dès l'âge de 5 ans. Donc oui, je suis supporter, mais même fan du Paris Saint-Germain. Mais je sais que voilà, ce soir, il y a des amis marseillais qui vont venir voir le match avec moi. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait les belles soirées, que ce soit à la maison, que ce soit au Vélodrome, au Parc des Princes ou chacun chez soi. Ça reste quand même de très très belles soirées.
Et quand on passe une soirée chez vous, Harry Habitant, si j'ai bien compris, avec vos amis aussi marseillais, ça se passe comment? Vous vociférez sur les buts du Paris Saint-Germain, vous sautez sur le canapé, ça se passe comment?
Alors chacun vient avec son maillot, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on mange dans la même assiette. Voilà. Et ça c'est beau.
Ça c'est bien ça. Et à la fin vous restez bons amis.
Mais c'est vrai que ça se charrie. On est bons amis, mais ça se charrie quand même pendant 90 minutes.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre nouveau spectacle, Harry Habitant, pour de vrai?
Eh ben, on retrouve « Je n'ai fait que vivre ma vie et vous la raconter ». Bon, évidemment, en exagérant toujours un petit peu, mais je parle de mes enfants qui ont grandi, qui sont devenus maintenant des femmes. Je parle de ma mère, je parle de ma sœur, de mes quatre nièces. En fait, je parle de toutes les femmes qui sont autour de moi, qui me protègent, voilà, qui sont là autour de moi, de mon père, de cette vie aujourd'hui qu'on a vécue depuis ces derniers 17 ou 18 mois et ce qui nous est arrivé. Donc, c'est très personnel, voilà, c'est très personnel, mais là, je commence à faire des rodages. Et je suis content parce que je m'aperçois que plus c'est personnel, plus c'est universel en fait.
Pour de vrai, dans toute la France et donc du 9 au 12 mars à la Cigale à Paris, le 9 et 12 mars 2022, est-ce que remonter sur scène et quand vous observez aussi les joueurs qui vous plaisent, qui vous enflamment, Harry Habitant, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des similitudes entre être sur scène avec un public et être sur un terrain, comme ça peut arriver avec le variété, mais aussi un match de Ligue des Champions avec des stars?
Mais vous avez raison de poser cette question. En tout cas, moi, je sais que mon stade, quand je monte déjà, même eux, ils ont le trac, c'est sûr. Ils ont le trac. Et d'ailleurs, à l'entraînement, bon, ça doit être facile, ça joue simple, ça vient vite au niveau des gestes et tout. Mais je suis sûr que quand ils sont devant 60 ou 80 000 personnes, ils ont le trac. C'est pas pareil. Ça, j'en suis sûr. Je suis sûr que ça doit pas être pareil, quoi. On fait pas les mêmes gestes. Donc oui, ça se rapporte aussi comme quand on était sur scène, ouais. Je suis d'accord.
Qu'est-ce que ça pourrait donner à Harry Habitant, joueur du Paris Saint-Germain? Vous seriez dans cette équipe aujourd'hui, vous occuperiez quel poste? Imaginons que ce soir, vous allez entrer, vous êtes titulaire. Hein. Pochettino vient de vous dire, Harry, que vous êtes titulaire. Vous allez jouer à quel poste et comment ça va se passer le match? Est-ce que vous allez marquer un but, par exemple?
Vous croyez quoi? Vous savez quoi? Je l'ai rêvé, je le rêve à chaque fois. À chaque fois, je me dis, imagine, il me dit, écoute, vas-y, je ne sais pas, voilà, il me fait rentrer les 10 dernières minutes. Devant, d'accord. Devant, je fais en sorte de croiser le regard de Neymar. Je cours parce que je suis bon comme ça aux 100 mètres. J'arrive à courir vite. Je pars de la ligne médiane pour ne pas être hors jeu. Neymar, qui me passe un ballon comme ça, côté droit. Je cours. Je sais que je ne pourrais pas marquer. Ouais. Du pied droit, je fais la passe à Messi. On marque. Et là, je fais 17 tours du terrain et évidemment, je suis crevé après tout ça.
Alors attendez, vous êtes passeur décisif, vous n'êtes pas buteur sur cette action, c'est ça?
Oui, non, voilà, je me suis mis passeur décisif parce qu'il y a le plaisir quand même d'embrasser après Messi et tout le monde. Et tout le monde vient me congratuler parce qu'évidemment, c'est moi qui étais à l'origine.
Bien sûr. Passeur décisif voilà, de Messi, c'est pas mal. Recevoir un ballon de Neymar et passer à Messi, c'est cool quand même. C'est bien.
Exactement.
Vous arrêtez votre carrière là, Harry Habitant, non? Votre carrière de footballeur. Bon, juste un petit pronostic avant de vous quitter, de vous remercier, Harry Habitant, pour le match de ce soir entre Marseille et le Paris Saint-Germain.
Par superstition, je ne dis jamais de pronostic. D'abord, d'accord, parce que je ne suis pas bon pour les pronostics. Juste, je veux que ce soir, le football l'emporte. Voilà, tout simplement.
Très bien. Eh bien, le football va l'emporter grâce à vous, parce que vous nous avez mis déjà dans l'ambiance. Ça, c'est formidable. Et on viendra vous voir avec grand plaisir, Harry Habitant, pour votre retour sur scène.
Merci.
Avec votre
merci
nouveau
beaucoup,
spectacle oui. Pour de vrai. Merci infiniment.
Merci,
et bon
merci
match.
Beaucoup.
Salut, Harry.
Bon match à vous tous. Merci. Au revoir.
Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
La grande soirée football, la très grande soirée football sur Europe 1 avec un vélodrome bouillant pour ce Marseille-PSG, pour ce classique, avec nos experts, nos invités, nos envoyés spéciaux. Jean-François Pérez, Marc Libra sont au stade Vélodrome avec le commentaire de Stéphane Burgat aussi à partir de 20h45. Jean-François Pérez, Marc Libra, mais aussi Grégory Schneider, Laurent Barra et Jimmy Algerino. Notre première thématique dans le cadre de ce match, tout le monde échoue hein, et chacun a choisi son camp, vous l'avez compris. Je ne vais pas désigner qui est pour Paris ou qui est pour Marseille. Vous le devinerez aisément ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi des intervenants neutres. Voilà, mon regard s'est tourné vers l'un d'entre nous dans ce studio, mais je ne dirai pas qui, ça c'est l'avantage de la radio. Parlons des entraîneurs, deux Argentins, au style très différent. Pochettino d'un côté, Sampaoli de l'autre, c'est l'eau et le feu. Marc Libra, comment vous les définiriez tous les deux? Et franchement, ce sont deux entraîneurs qui font jouer leur équipe de manière très différente, on est d'accord?
Oui, c'est exactement. On peut décrire l'eau et le feu, la nuit, le jour. C'est assez impressionnant. Pour moi, je vais être très dur avec Pochettino qui, quoi qu'il arrive, n'a pas forcément la main mise sur ses joueurs. Vous imaginez bien quand ça va mal, expliquer à Messi, à Neymar ou à Mbappé, tu peux faire ça s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le repli défensif, est-ce que tu peux te replacer? J'ai connu de très grands joueurs dans le vestiaire, c'était quand même très difficile de leur dire ce genre de choses. Du côté de Sampaoli, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est lui qui décide du début jusqu'à la fin. On va me mettre Rongier latéral gauche, latéral droit, ça part dans tous les sens. C'est de la folie, ça fait plaisir. Pour moi, il y a des fondamentaux dans le football qui ne sont pas forcément respectés, mais pour l'instant, ça réussit bien. Et vraiment, ce qui se passe avec Sampaoli et ses joueurs, pour l'instant, ça tient la route. Après, il ne faut pas essayer de savoir, oui, tu joues bien à gauche, tu as été formé à droite, tu es plus milieu de terrain. Là, voilà, c'est football total, on se régale et ça part dans tous les sens.
Jean-François Pérez.
On va se régaler.
Jean-François Pérez, c'est vrai que c'est un peu un match dans le match aussi entre ces deux entraîneurs par rapport à leur histoire, à leur parcours, leur tempérament, les deux clubs aussi qu'ils représentent. C'est magnifique cette opposition.
On ne peut pas imaginer, j'allais dire presque plus caricatural, ouais. Parce que vous avez d'un côté Pochettino. Vous savez, on dit souvent les Brésiliens, il y a deux sortes. Il y a les religieux et les fêtards. Je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose des Argentins avec d'autres mots. C'est-à-dire que Pochettino, c'est l'Argentin qui a la grinta, mais qui est sérieux, qui va faire vraiment son boulot comme un artisan. Il n'y a rien qui dépasse. Et puis vous avez les fous. Voilà, vous avez les fous comme Sampaoli qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, qui est des révolutionnaires communistes, employés de banque. Enfin, je vous invite d'ailleurs à lire le dossier de SoFoot de ce mois-ci de notre ami Javier Prieto Santos. L'article, le dossier est absolument extraordinaire, vous apprendrez mille choses, mais Sampaoli est une espèce de type inclassable qui apporte son énergie, peut-être même un peu trop, son anarchie même, j'ai envie de dire, parce que ce soir on va avoir Paul Lirola qui est latéral droit, va jouer quasiment ailier gauche. Donc ça aussi c'est intéressant à voir, comment d'un côté Pochettino arrive à tirer le meilleur de cet effectif jamais vu en France, et d'un autre côté avec tous ses égos à gérer, et d'un autre côté Sampaoli qui essaie de mettre en place une méthode avec des joueurs qui sont beaucoup plus à l'écoute et dévoués à son discours pour arriver à avoir des résultats. C'est passionnant, c'est un match, en tout cas si les conditions sont bonnes ce soir, que le stade eh bien, est volcanique mais reste dans les limites, c'est un match qui va être passionnant à suivre sur le plan du foot.
Et si on inversait les rôles et si on inversait les familles, Jimmy Algerino, on dit souvent que c'est difficile de diriger le Paris Saint-Germain, que c'est la République des joueurs et quel que soit l'entraîneur, son parcours ou sa personnalité, finalement les footballeurs, les stars en tout cas, font un peu ce qu'elles veulent. Est-ce que Sampaoli, par exemple, avec sa folie, avec son tempérament, pourrait arriver à mieux canaliser le Paris Saint-Germain ? Celui d'aujourd'hui, bien sûr.
Ben non, ben d'ailleurs, on l'a vu quand il est passé avec l'Argentine. Il n'y est pas arrivé, il a essayé. Et après, il a vite changé. Ben d'ailleurs, Di Maria l'a expliqué. Au départ, j'étais le meilleur. Puis après, il m'a mis sur le banc. Avec Messi, il y a eu des soucis. Mais moi, je voudrais dire aussi à Marco, mais qui pourrait arriver à tenir le vestiaire au Paris Saint-Germain ? Personne. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas ce qu'on lui demande. Au coach, on lui demande surtout d'essayer de gérer au mieux les égos, le temps de jeu, éventuellement d'amener un peu de technique, un peu de tactique, un peu de gestion. Mais après, c'est les joueurs. Et c'est comme ça, le club du Paris Saint-Germain est géré depuis X années, surtout quand ça se passe bien avec des grands joueurs. Et donc, c'est aux joueurs de se prendre en main. Et donc, on va demander à Lionel Messi, à Neymar, maintenant aussi à Mbappé, à Marquinhos, à Navas, de gérer tout ça et d'essayer d'aller le plus loin possible, sachant qu'aujourd'hui, sur les 4 dernières années, le Paris Saint-Germain va quand même assez loin, ouais. Que ce soit en championnat et en Ligue des Champions.
Laurent Barra, la force de Sampaoli, c'est qu'il est très aimé des joueurs,
oui.
Parce qu'il leur accorde des libertés.
Mais c'est ce que j'ai écouté une interview de Samir Nasri qui disait que quand il était à Séville, Sampaoli lui avait dit « Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais le soir du match, je te veux à 100% avec moi ». Et Nasri disait que c'était devenu son mentor, et c'est d'ailleurs été les 6 meilleurs mois de Samir Nasri, de la carrière de Samir Nasri, ouais. À Séville, parce qu'il a été surprotégé par ce mec et soutenu. Mais je reviens sur ce que disait Jimmy, effectivement, Sampaoli marche très fort à Marseille parce qu'il n'a pas de grande star à manager. Ouais. On l'a vu avec Messi à la Coupe du Monde en 2018, ça s'est mal passé parce qu'il n'avait pas la main sur lui, tout simplement.
Parce qu'il s'inscrit dans cet ADN marseillais aussi, hein. Je pense qu'il se ressemble.
Exactement, comme
Bielsa,
exactement.
C'est ce tempérament, il se ressemble, c'est peut-être ça aussi la clé. C'est d'être un petit peu plus facile pour lui, vous voyez, si on inversait encore les rôles, Grégory Schneider, est-ce que Pochettino pourrait réussir dans ce climat marseillais?
Je ne m'interdis pas de penser que ça pourrait peut-être être plus facile pour lui avec l'effectif de Marseille qu'avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il pourrait faire son métier de coach.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il pourrait.
Il ne peut pas le faire, il est DRH.
C'est-à-dire qu'il faut, par rapport à ce qui a été dit, c'est un peu ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Il y en a un qui doit en faire le moins possible, qui doit être le plus discret possible. Ouais. C'est Pochettino, puisque de toute façon, c'est à Navas et Mbappé de lui gagner les matchs. Et il y a l'autre qui doit au contraire faire exister son club sur tous les fronts. En permanence, c'est-à-dire en faisant jouer l'équipe de manière exubérante, comme a dit Jean-François, avec une espèce d'anarchie, avec une espèce de force expressionniste que Guendouzi d'ailleurs trahit très bien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit exister au plus haut et il y en a un qu'on ne doit pas entendre. On sait tous ici que Tuchel s'est fait virer en grande partie à cause de ses interventions médiatiques parce qu'il dépassait du cadre. Donc c'est un petit peu.
N'oublions pas que Leonardo est là.
Oui, n'oublions pas que Leonardo est là, mais c'est-à-dire qu'en gros, il faut que Pochettino en fasse le moins possible et il faut que Sampaoli en fasse le plus possible.
Donc voilà, Léo est là.
Mais rien ne m'interdit de penser que Pochettino a quand même amené Tottenham en finale de Ligue des Champions avec un effectif modeste à cette échelle. Donc il sait faire ça.
Pour qui c'est plus simple, Marc Ibra, ce soir, Pochettino avec les stars du Paris Saint-Germain ou Sampaoli avec la fusion marseillaise?
C'est difficile à dire parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne verra pas une équipe de l'Olympique de Marseille ce soir qui va baisser les bras. On l'a vu depuis le début de la saison, que ce soit de la première journée face à Montpellier, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 3-2. Aujourd'hui, tout le public, tout le monde est derrière l'Olympique de Marseille. Alors on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément de très grands joueurs, par contre, ils mouillent le maillot. Qu'est-ce qu'on attend à l'Olympique de Marseille ? On peut tout comprendre, on peut être mauvais, on peut perdre à Marseille, par contre, il ne faut pas baisser les bras. Et quand vous voyez un coach qui, du début jusqu'à la fin, je crois qu'il doit perdre 2 ou 3 kilos, il doit faire 5-6 kilomètres, c'est impressionnant. C'est Giroud qui en parle
plus
encore,
que
il
se
demandait comment. Ah non, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Donc, je pense que si Paris vient à se faire accrocher, je pense qu'on peut commencer à taper. Quand je dis taper simplement, la presse va commencer à s'en prendre un petit peu à Pochettino. Mais c'est vrai que ça soit Jimmy, que ça soit Grégory, c'est un coach qui est là par. Il est là, il ne peut pas trop parler. Vous vous rendez compte comme c'est terrible. C'est ça qui est quand même assez impressionnant. C'est que, oui, alors qui peut le gérer? Comme pour répondre à Jimmy, Guardiola qui peut venir, qui peut avoir le pouvoir aujourd'hui pour aller parler à ces joueurs-là? Et aujourd'hui, malheureusement, si pareil doit évoluer, il faut qu'il y ait aussi un coach qui les aide. Donc ça sera difficile, mais en tout cas, Pochettino a le plus à perdre pour moi ce soir.
Celui qui pourrait peut-être diriger, alors ça c'est une bonne réponse, Marc Ibra, celui qui pourrait diriger le Paris Saint-Germain, vraiment en regardant tout le monde les yeux dans les yeux, mais il n'ira jamais au Paris Saint-Germain, c'est Zidane.
C'est le seul.
Excuse-moi, Zidane au Paris Saint-Germain, ni Neymar, ni Messi vont commencer à faire la loi.
Par rapport à ce qui a été dit, Guardiola ne veut pas d'un effectif de stars, en fait. Ouais. Regardez comment il a construit Manchester City, il veut pas de tête qui dépasse, il veut quand même des joueurs. Il a dit pourquoi Messi, j'ai Grealish. Par contre, Zidane, lui, sait gérer un effectif de stars. Il l'a fait au Real Madrid, il l'a fait avec CR7, il l'a fait avec.
Mais
lui est capable de faire ce coup-là.
C'est totalement impensable, Laurent Barra, on est d'accord.
Vous venez de me donner des frissons, là, vous voyez.
Mais en l'occurrence, c'est peut-être le seul. Paradoxalement, qui pourrait le faire.
Non, mais Jimmy Algerino et après Jean-François. Je crois qu'il n'y a aucun coach qui a envie de gérer une équipe de stars. Quand Zidane arrive au Real de Madrid, il y a déjà tous les joueurs. Et d'ailleurs, pendant les quelques années où il est. Ces super années, ils recrutent pas.
À votre époque, il y en a eu beaucoup de stars aussi au PSG. Jimmy, il y a eu Georges Weah, il y a eu Ginola.
Mais ça n'a pas été facile.
Bien sûr,
passage de Luis, même Ricardo, et encore que Ricardo Batz. Donc il y avait quand même deux grandes stars sur le banc qui ont aussi réussi à gérer. Mais aujourd'hui, je crois qu'aucun coach, que ce soit Guardiola, même Klopp, a envie d'avoir un effectif comme au Paris Saint-Germain. Ils ont envie d'avoir une équipe équilibrée et avec de très très bons joueurs.
Pour conclure sur ce thème, Jean-François Pérez, est-ce qu'on peut dire que c'est Sampaoli qui a peut-être le mieux compris l'atmosphère, l'ADN, le climat de son club avant son vis-à-vis Pochettino au PSG actuellement?
Je ne sais même pas s'il a compris, en fait, parce que c'est une rencontre entre une personnalité et une ville qui coule de source presque. Alors peut-être que ça se terminera mal, mais à Marseille, souvent, vous le savez, Lionel, les choses se terminent mal. Mais on aura vécu de bons moments. Non, mais c'est vrai. De bons moments. Et c'est ça qui importe. Vous savez, en ce moment, au stade, les gens, ils sortent. Qui est match nul, qui est défaite, qui est victoire, ils sortent, ils ont le sourire, parce que ça nous repose la question, Sampaoli et son jeu anarchique, ça nous repose la question de savoir pourquoi on va dans un stade de football. Est-ce qu'on y va absolument pour un résultat ou est-ce qu'on y va pour voir du foot et prendre du plaisir? Lui, il a fait ce choix-là. Ça marche très bien parce qu'en gros, à l'OM, on s'est embêté, pour ne pas dire autre chose, pendant des années, à quelques exceptions près. Lui apporte cette flamme-là. Donc oui, en ce sens, il a parfaitement compris le message et c'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui ne s'économise pas et qui donne tout. Contrairement à d'autres entraîneurs qui sont passés ici, notamment un Français qui a terminé à Lyon après. Et de l'autre côté, vous avez un Pochettino qui est tellement bloqué par son rôle et par ses stars et par le budget et par l'importance diplomatique de ce club que, comme Tourelle le disait il y a quelques mois, je ne sais plus très bien quel est mon métier là-dedans. Et Pochettino, il a fait le choix de la discrétion, de l'austérité, et pour l'instant les résultats font que ça le sauve, parce que pour le reste ce n'est pas très bon, mais les résultats sont là et donc du coup ça le sauve. Peut-il faire mieux? Je n'en sais rien.
Marseille-Paris Saint-Germain, on est à moins d'un quart d'heure du coup d'envoi de ce match à suivre en intégralité sur Europe 1 en direct du stade Vélodrome avec tous nos experts, nos invités. À tout de suite.
Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
Jusqu'à 23h sur Europe 1, Europe 1 Sport avec le grand match Marseille-Paris-Saint-Germain. On laisse vivre cette ambiance pleinement, la rencontre en intégralité, mais l'analyse en direct bien sûr avec tous nos experts. Jean-François Pérez avec Marc Libra, Stéphane Burgat sont au stade Vélodrome, en studio avec nous Grégory Schneider, Laurent Barra, Jimmy Algirino. Laurent Barra qu'on retrouve aussi le samedi sur Europe 1 entre
oui,
16h et 18h,
oui.
Bien
oui.
sûr. Et puis à votre spectacle en toute transparence. Et avant de redonner les compos et de savoir comment on va jouer ce soir, j'aimerais que vous nous racontiez une anecdote que vous m'avez racontée tout à l'heure, Laurent, qui est magnifique, qui définit bien en fait votre amour du foot et votre amour de l'Olympique de Marseille, quand vous avez rencontré Marcel Dib. Racontez-nous, Marcel Dib, on le rappelle, c'est quand même une légende vivante de l'OM. Hein.
C'était mon idole d'enfance, vraiment, et j'ai eu la chance de jouer mon spectacle dans un très beau théâtre à La Ciotat, et on devait faire toute une histoire de promo avant, un jour avant le spectacle, et je vais sur une radio locale. Il y avait ma productrice, mon attaché de presse, et tout le monde me dit, bon, parle du spectacle, parle de tout, bien. Et la journaliste me pose la question sur le spectacle, et je dis, écoutez, je vais arrêter de parler du spectacle, ça n'a aucun intérêt. Je vais lancer un message, je savais que Marcel Dib avait un restaurant, et il a toujours une plage à La Ciotat. Ouais. Donc j'ai dit, voilà, si vous m'écoutez, Marcel Dib, je suis votre plus grand fan, je vous invite, vous et qui vous voulez au spectacle, mais venez, ma productrice. Mais qui c'est Marcel Dib, de qui il parle celui-là? Je rentre à l'hôtel, je fais une sieste, parce que l'humour c'est aussi du sport, je fais une sieste. Et là, je reçois un appel. Petite collation, voilà. Et je reçois un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'entends, oui, bonjour, c'est Marcel. Je fais, ah, qui c'est ça? C'est quoi? C'est une blague? Nina, j'ai entendu ton truc, là, ton message. Et puis à la radio, écoute, je les ai appelés, mon fils, ton numéro. Mets-moi deux places. Il est venu avec un collègue à lui. Je crois que j'ai foiré le spectacle tellement que j'étais ému. J'ai fait un spectacle qui devait s'appeler Marcel Dib. Je parlais que de lui. À la fin, il m'a dit, écoute, on va aller manger une pizza. Je suis un collègue à moi, Jean-Louis Béringuet, qui était un collègue...
Ouais, c'est un joueur de Toulon, notamment.
Un joueur de Toulon. Je pense, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé, je tiens à vous le rappeler, mais je pense que ce jour-là, je devais être à 153 grammes. Et je lui ai dit, écoute Marcel, mon rêve, vraiment, c'est, quand j'étais gamin, c'est d'avoir ton maillot de la demi-finale de la Coupe de France contre Auxerre.
En 96.
Il me dit, ah, je ne les ai plus, j'ai plus de maillot, moi. Je rentre à 4h du matin à l'hôtel, je m'écroule. À 8h du mat, t'as la fille de l'accueil qui m'appelle, qui me dit, Monsieur Barra, il y a deux gars qui sont venus laisser un colis pour vous. Il y en avait un avec les cheveux longs et l'autre avec un air un peu inquiétant. Est-ce que vous pourrez descendre? Parce que nous, sinon, on va être obligé d'appeler la police pour ouvrir le colis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je descends, il y avait le maillot dedans. Et je l'ai appelé. J'ai appelé Marcel au téléphone. Je lui ai dit, Marcel, qu'est-ce que c'est? Il me dit, écoute, j'ai fouillé la cave pendant 3 heures. Je l'ai retrouvé. C'était le dernier qui me restait. Et je ne me sépare jamais de ce maillot.
Et vous l'avez pendant toute votre tournée, pendant tous vos spectacles.
Mais moi, c'est ma génération. Marc Libra, c'était une de mes idoles.
Je sais que Marc Libra, c'est votre idole. Vous avez vu tous ses buts, vous les connaissez par cœur.
Celui de Château, voilà.
Et notamment. Et Marc et Jean-François, vous qui connaissez bien le coin et la région, c'est vrai que le restaurant de plage, il est à côté de La Ciotat. Hein. Il est côté Var, hein, celui de Marcel Dib. On est d'accord, hein.
Il est à Saint-Cyr, plus
voilà,
exactement.
Saint-Cyr-l'Évêque, hein, c'est ça, juste à
exactement.
Côté.
Exactement.
Hein.
Ben voilà. Oui, Laurent.
C'est une belle anecdote, voilà. C'est une très belle anecdote. Vous pouvez nous rappeler la composition d'équipe, Jean-François Pérez, côté marseillais et côté parisien, pour qu'on puisse gloser un tout petit peu sur ce match. Je ne sais pas si Dib est titulaire.
Ah. Non.
Non.
Il n'aurait pas démérité en milieu de terrain défensif ce soir, mais il y a quand même du beau monde à l'OM à ce type de poste. La compo de l'OM donc avec Paulo Lopez dans les buts qui a donc presque définitivement supplanté Steph Bandanda, en tout cas pour l'instant. La défense à 3, Luan Perez à gauche, Douye Tchaletatsar au centre, William Saliba à droite. Le milieu de terrain donc avec Bouba Camara, le minot des quartiers sud, Matteo Guendouzi et Valentin Rongier. Une ligne de 3 ensuite, Paul Lirola qui va donc, je vous le confirme, jouer ailier gauche ce soir, en tout cas piston gauche. Dimitri Payet le meneur de jeu, Cengiz Ünder le turc ailier droit et Arek Milik avant-centre de l'Olympique de Marseille. Côté Paris Saint-Germain, Keylor Navas, la défense à 4, Nuno Mendes, Prestel Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi, le milieu à 3, Danilo, Verratti et Messi, j'allais dire en meneur de jeu, et puis devant Neymar à gauche, André Di Maria à droite, Kylian Mbappé théoriquement avant-centre.
Ça fait rêver quand même, hein. Franchement, wow. Tous ces noms, ça fait rêver. Messi au Vélodrome pour le classique, j'ai un peu de mal à y croire. Grégory Schneider.
Ça fait rêver, mais en termes d'équilibre, ça me semble pas si évident que ça quand même.
Ah,
c'est-à-dire qu'il va quand même. Très franchement,
on peut en discuter.
Les quatre, c'est mettre les quatre en même temps, il va forcément y avoir un déficit de repli,
pour défendre.
Même d'engagement physique, parce que c'est pas des lutteurs. Je suis un peu intrigué, moi, personnellement.
Jimmy Algirino, comment on joue ce soir? Comment ça va se passer, cette rencontre,
va dépendre, parce que si ça peut permettre aussi au PSG de faire défendre Under et Dirola. C'est, je pense, la solution pour essayer de les amener à défendre. Maintenant, voilà, faut-il encore que le Paris maîtrise bien le ballon, puisse attaquer comme il faut. Et puis surtout, voilà, acculer les Marseillais dans leur camp, et du moins dans leur camp de maître.
On y est, on est en transe là, parce qu'on entend le jump évidemment. On l'écoute quelques secondes. En direct du stade Vélodrome, avec la petite bombe agricole qui va bien, avant que ce soit un pétard. Je sais que Marc Libra utilisait quand il était enfant et adolescent ces pétards qu'on appelait les mammouths, ces gros pétards qui faisaient du bruit des smas. Marc, comment joue-t-on ce soir côté Marseille et côté Paris?
Ça va être écouté. Là, ça va être déjà dans les premiers instants, ça va être, je pense, une folie, parce que c'est vrai qu'il y a énormément du bruit, ça résonne énormément. Et on va voir déjà l'implication des joueurs marseillais. Pour avoir joué ce genre de match, c'est dès le départ, il faut montrer qu'on est à la maison.
Comment vous voyez Laurent Barra ce match?
Ah ben, comme le dit Marc, hein, il va falloir mettre de suite de l'intensité, du rythme. Il va falloir montrer que Marseille est à la maison. Mais Paris, là, nous sort l'armada, ça va être passionnant.
On va rester à... Oui, Jimmy Algerino, puis après je rends la main à Jean-François, parce que c'est au stade que ça se passe, évidemment, pour le protocole.
Je pense que Messi va kiffer ce soir, parce que des ambiances comme ça, même sur les classicos Barcelone-Real, je pense qu'il va... Il va vraiment apprécier, donc ça peut et aussi le transcender,
lui donner envie de faire ça. Peut-être très argentin.
Ne serait-ce que les tifos, Jean-François, on est d'accord, hein, les tifos dans le stade Vélodrome, les chants, l'ambiance, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à Boca, ouais, ouais. À River Plate, c'est
à la Bombonera.
Ouais, c'est la Bombonera, absolument, c'est la Vélodrome.
Exactement. Exactement, un petit peu, c'est vrai. Magnifique tifo, magnifiques animations côté virage sud. Nous sommes l'armée des Marseillais avec un logo de l'OM qui a été reproduit par les 25 000 spectateurs du virage sud et même des grands tifos là avec un hommage, j'allais dire, au peuple marseillais, au peuple des supporters. Et puis dans le virage nord, je pense qu'on a vu le plus magnifique tifo anti-LFP de l'histoire puisque vous aviez 25 000 personnes qui ont brandi des petites pancartes individuelles qui formaient un gigantesque LFP, et je vous dirai pas le mot en 5 lettres, le mot de Cambronne.
D'accord, très bien.
Et puis pour le reste, ça chante, ça applaudit, vous l'entendez derrière nous.
Les supporters marseillais ont ce mérite-là, c'est d'être très inventifs.
Toujours, hein. Très créatifs.
Et on précise quand même, Jean-François et Marc et Stéphane, que les supporters parisiens ne sont pas là, hein, évidemment, non. Pour des raisons de sécurité. Et que pour l'instant, ça se passe bien, même s'il y a des fumigènes qui sont présents, qui sont là et qu'il y a une ambiance terrible.
Voilà, des dizaines de fumigènes qui viennent d'être allumés là dans le virage sud. Alors évidemment, attention, l'image elle est absolument extraordinaire parce que vous savez que ce match est diffusé dans le monde entier, mais vous connaissez aussi le contexte disciplinaire de ce match. Les fumigènes ne sont pas forcément autorisés dans ce type de circonstances, surtout avec un virage qui est absolument plein. Donc je ne sais pas si l'Olympique de Marseille ne risque pas une nouvelle fois de payer cher cette ambiance unique en France et presque unique en Europe. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, Messi, Mbappé, et voilà, premier appel à l'ordre du speaker, mon cher Marc.
Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas que ça finisse sur le terrain, parce qu'autrement, ça va être très compliqué. Et je pense que le début de la rencontre peut être un petit peu déjà décalé, parce que la fumée va arriver sur le terrain. Oui. Pour le diffuseur, c'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout, et voilà pourquoi le speaker, c'est Dédé Fournel, hein. C'est ça qui est en train de faire ses recommandations. C'est vrai, Grégory Schneider, que si le Paris Saint-Germain marque rapidement, si le Paris Saint-Germain domine très très vite et lourdement l'Olympique de Marseille, ça peut dégénérer, hein.
Ah, je pense que non. Je vais vous dire, non, je pense que non. Effectivement, ils sont chauds, mais c'est pas un public qui part non plus dans tous les sens. Il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu beaucoup de. On sait que Longoria s'est exprimé avant-hier. Payet en a remis une couche. Payet a parlé notamment du point de sursis, parce qu'ils sont quand même à moins un point de sursis. Je trouve que Marseille, c'est quand même un public un peu plus discipliné qu'on ne le pense souvent.
Eh bien, on va voir ça immédiatement.